Bonsoir. Veuillez tourner avec moi dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Merci Laval pour la musique, c'était fort édifiant et fort apprécié. Philippiens 4. On va lire les versets 10 à 19. Philippiens 4, versets 10 à 19. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, verset 19, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on vient de lire ta parole éternelle, vivante, permanente, puissante et... Quel privilège qu'on a ce soir de l'ouvrir en toute liberté dans ce pays d'abondance. Et Père, parle de nous, encourage-nous par ces textes qu'on vient de lire. Et on te demande au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Alors, on est en train, ensemble, d'être initiés au contentement. Je dis qu'on est en train parce que ça fait déjà deux messages ensemble qu'on voit. Puis même si vous n'étiez pas là, les deux autres messages, soyez sans crainte, vous ne serez pas perdus au cours de la soirée. Vous allez bien rattraper le train. Mais on est ensemble en train d'être initiés au contentement. Puis je pense que s'il y a une belle prière qu'on pourra faire au Seigneur, on peut en faire beaucoup en ce début d'année 2011, c'est de demander au Seigneur, apprends-moi à être content dans ma vie. Il y en a qui vont dire une drôle de prière. On est chrétiens, j'espère pour plusieurs, la plupart, pour tous et chacun. J'espère que tout le monde est sauvé ou presque. J'espère que c'est en cheminement, si ce n'est pas le cas. Mais... il n'y en a pas pour moi que là, vous allez dire, moi, je suis chrétien, je suis content. Oui, mais au quotidien, est-ce que tu es vraiment content? Est-ce que tu es vraiment satisfait? Et donc, la question se pose, et le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend parce que Paul l'a appris. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on retrouve verset 11, c'est assez éloquente et évidente. Il dit, j'ai appris à être content. Alors, si l'apôtre Paul a dû apprendre à être content, ça se peut-tu que nous aussi, je pense qu'on a besoin d'apprendre à être content. Et donc, Paul, dans ce texte-là, nous initie au contentement. Puis, quand il dit « apprendre » au verset 12 en particulier, dans le mot grec, quand il dit « j'ai appris à être assasié », c'est vraiment « j'ai été initié à ». Et le mot « initié » parle d'initiation à des choses inconnues. Hein? Donc, Paul nous dit « j'ai été initié, j'ai découvert des secrets ». C'est intéressant à savoir, c'est quoi ces secrets-là? C'est quoi le secret du contentement? C'est quoi les ingrédients pour devenir content dans ma vie chrétienne? Parce que force est d'admettre que parfois, au quotidien, moi, chrétien, est-ce que je suis vraiment content? La question se pose. Mais en tout cas, dans le cas de Paul, Paul est un homme content, est un homme satisfait. C'est intéressant que celui qui nous parle ce soir n'était pas en vacances au bord de la plage, on s'entend-tu? Là? Il était en prison. Pas les prisons du Québec, avec salle de musculation, trois pas par jour. Paul est en prison, mais il dit, je suis content. Ouais, on est loin, moi en tout cas, je peux vous dire, je suis loin de ça encore. Il est en prison, puis pourtant, c'est lui qui va dire au verset 4, on ne l'a pas lu tantôt, mais il va dire, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Puis même au cas où on ne l'a pas compris, je le répète, réjouissez-vous. Un apôtre qui est en prison. C'est lui qui va commander au verset 6 de ne s'inquiéter de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Verset 7, même Paul va nous parler de la paix de Dieu, hein, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Puis au verset 9, il va nous parler aussi de ce Dieu de paix. Hein? Et le Dieu de paix sera avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mots-clés là-dedans, dans ces quelques versets que je viens de citer. Se réjouir, ne s'inquiéter de rien, avoir la paix de Dieu et connaître le Dieu de paix. Et tout cela vient de Dieu, ne peut venir que de Dieu. Puis, donc, Paul vivait tout ça. C'est quelqu'un qui, malgré sa situation, se réjouissait. Malgré sa situation, était en paix. Malgré sa situation, ne s'inquiétait de rien. Alors, il faut en arriver à ça dans notre vie chrétienne. C'est quoi le secret? On a un homme devant nous qui savait comment se réjouir en toutes circonstances. On a un homme devant nous qui est libre d'anxiété et d'inquiétude, hein, le fléau des années 2011. Il y avait des statistiques dernièrement sur les Ritalin et puis les antidépresseurs. C'est incroyable au Québec. Là. Il y a plus de Ritalin que de monde. En tout cas, je suis essayé de calculer les statistiques, mais il me semble que... Pourtant, j'en prends pas. En tout cas. Donc, on a un homme devant nous dont le cœur est gardé par la paix de Dieu et le Dieu de paix. Et c'est un homme qui a appris à être content, nous dit-il au verset 11. Et je l'avais déjà dit dans un message précédent, mais comment ce thème-là du contentement est pertinent dans notre société d'aujourd'hui? On est-tu dans une société mécontente à votre goût? Les Québécois, je pense qu'on est vraiment les maîtres du chiolage, les maîtres du mécontentement. Dans notre société, on est mécontent de ce qu'on a. Puis même, on est mécontent de ce qu'on est. C'est la folie des chirurgies esthétiques pour se rendre plus beau, plus belle. Regarde la job avec moi, mais en tout cas, c'est pour ça que je n'investis pas là-dedans. On est dans l'ère de l'esthétique, de l'apparence. Les gens ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Mécontentement même, c'est des mécontentements profonds, ça. On est même mécontent de la personne avec qui on vit aujourd'hui. C'est intéressant de penser, en parenthèse, on est dans une ère Facebook, puis moi, je ne connais pas tellement, je suis pas très high-tech, comme vous voulez, je ne mets même pas de PowerPoint, ça va pas bien. Mais c'est étonnant de voir qu'on est à l'ère Facebook, puis pourtant, je regarde bien souvent, surtout la jeunesse, comment les jeunes sont, ils ont bien des amis sur Facebook, mais ils n'ont pas beaucoup d'amis dans la vie quotidienne. Des amis, des relations réelles, ils ont de la difficulté à trouver l'âme-sœur. Bref, dans notre société, on est mécontent de pas mal de choses dans la vie. On est mécontent des circonstances, des difficultés, de nos gouvernements aussi. Pourtant, au Québec, on est tellement gâtés, on est tellement bénis, on a tellement. C'est pour ça que j'aime bien, moi, chanter comme chrétien le bon vieux cantique « Contre les bienfaits de Dieu ». Quand on est chrétien et on réalise comment on est béni en Jésus-Christ, puis comment on a beaucoup, et quel beau cantique que celui « Contre les bienfaits de Dieu ». Mais on a un homme devant nous qui se réjouissait, qui était libre d'inquiétude, qui connaissait une paix inexplicable, pourtant en prison, mais parce qu'il avait appris à être content, en toutes circonstances. Alors la question qu'on se pose depuis le début de ce thème-là, qu'on voit ensemble depuis quelques messages, c'est toujours la suivante. Comment il fait, Paul, pour être content comme ça? Comment nous aussi, en 2011, on peut être content dans notre vie quotidienne? Si Paul a appris à être content, peut-il nous enseigner à le devenir? Lui qui était l'élève et qui a appris la leçon, peut-il devenir l'enseignant pour nous en 2011? Et la réponse est oui, parce qu'il nous révèle ça. Et la beauté des Écritures, c'est que les Écritures nous révèlent ce qu'on a besoin de connaître. Ce qu'on n'a pas besoin de connaître, l'Écriture ne le révèle pas. L'Écriture est complète, parfaite. Et ce qu'on a besoin de savoir, Dieu nous l'a révélé. Et c'est pour ça qu'on veut prendre du temps pour étudier ce texte, car il nous enseigne les secrets, les ingrédients du contentement. Premier ingrédient du contentement, je le rappelle rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, mais même pour nous rafraîchir la mémoire, le premier ingrédient du contentement, ça commence avec la confiance dans la providence de Dieu. La confiance dans la providence de Dieu. On avait vu ça au verset 10. Regardez quand Paul écrit ceci là, aux Philippiens. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Là, vous allez dire, c'est quoi le lien avec la confiance dans la providence de Dieu? C'est que Paul, rappelons-nous dans le contexte, était prisonnier à Rome, était captif, enchaîné à un soldat romain, incarcéré dans un quelconque appartement dans la ville de Rome. Par conséquent, c'était un homme qui avait perdu son confort, sa liberté, subsistait au strict minimum en termes de nécessité de la vie. Puis les Philippiens, dans le contexte, lui avaient envoyé un don par Épaphrodite au verset 18. Peut-être de l'argent, des vêtements. Le texte ne nous le confirme pas, ne nous le précise pas. Puis selon les commentaires, ça vient nous éclairer, ça faisait 10 ans que Paul n'avait rien eu des Philippiens. Il était en prison, il n'avait pas eu de nouvelles des Philippiens, pas eu de don. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une lettre comme celle de Philippiens, moi, dans mon tempérament, dans mon caractère, il me semble que j'aurais fini la lettre par une lettre de bêtise plutôt qu'une lettre d'âge. C'est donc fantastique, il m'a envoyé un don, j'aurais dit. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je n'ai rien eu. Pardon. Mais c'est moi qui ai fondé votre église, hein, l'apôtre Paul. J'aurais très bien pu leur trousser ça un peu, comme on est capable de faire, nous, les pécheurs, de dire, écoutons, gang d'ingrats, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Non, c'est pas ça qu'il dit. J'ai éprouvé une grande joie quand j'ai reçu votre don. Puis il ne leur prête pas de mauvais motifs. Il dit, je sais que vous pensiez bien m'en donner, m'en faire parvenir, mais vous n'avez pas eu l'occasion tout simplement. Donc, il ne leur prête pas de mauvais motifs, il leur prête de bonnes intentions. Ça, c'est un cœur de pasteur. Ça. Paul aimait les Philippiens, puis Paul finit sa lettre. Donc, mais pourquoi Paul pouvait-il parler comme ça? Qu'est-ce qui faisait que Paul pouvait écrire comme il écrit le verset 10? C'est que, qu'est-ce qui fait qu'il peut dire, c'est correct, là, je suis content d'avoir eu le don? Aucun reproche. Il n'y a pas d'amertume ni de panique dans le cœur. Il est content. Pourquoi Paul il peut écrire comme ça? C'est qu'il est content avec le Dieu souverain qui providentiellement crée les opportunités. Il savait que s'il n'avait pas eu le don avant, c'est que Dieu était en contrôle de toutes choses puis il n'avait pas à l'avoir avant. Point final. Et ça reflète ce verset 10-là, bien banal, que Paul avait cette confiance profonde dans la providence souveraine de Dieu. Dieu pourvoit en son temps. C'est l'élément de base du contentement. Si nous aussi, on veut être content dans notre vie chrétienne, il faut apprendre à faire confiance à la providence souveraine de Dieu qui va pourvoir en son temps. Quelque chose, ça. C'est un défi d'une vie, ça. Ça fait partie de la maturité chrétienne. Et plus qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, qu'on connaît ce Dieu-là de la Bible, plus on lui fait confiance et plus on se fie à, justement à sa souveraineté. Dieu est en contrôle de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Alors, je lui fais confiance. Et en lui faisant confiance, c'est soulageant, ça. Dieu contrôle toutes choses. Alors, je suis content. Premier ingrédient du contentement. Il faut se rappeler ce soir, vraiment, comme croyant, que Dieu est attentif à mes besoins, à nos besoins. Dieu connaît le nom même de nos cheveux sur notre tête. Hein? Il y a un cheveu qui ne tombe pas sans qu'il le sache. Dieu comprend toutes choses au sujet de ma vie, au sujet de ta vie. Puis même, on lit un texte dans l'Ancien Testament qui laisse sous-entendre quasiment que Dieu met même nos larmes dans une bouteille. Dieu se préoccupe de nous. Dieu nous aime. Et Dieu est en contrôle de toutes choses dans nos vies. Dans chacune de nos vies, simultanément. Puis on en avait parlé de cet aspect de la providence qui est extraordinaire. Dieu agit de deux façons hein, dans le monde, on l'a déjà dit. Par miracle, par providence. Mais par providence, c'est aussi extraordinaire, sinon plus que par miracle, parce que par providence, il contrôle toutes choses dans ma vie au même moment qu'il contrôle toutes choses dans ta vie, dans la tienne, dans la tienne, dans la tienne, dans tout l'univers, puis il contrôle tout l'univers physique aussi en plus en même temps. Wow! C'est ça notre Dieu. On peut y faire confiance, c'est sûr. Et c'est ça le secret du contentement. Deuxième chose qu'on avait vue ensemble, c'était la dernière fois qu'on s'était vu d'ailleurs. Non seulement pour être content, il faut être pleinement confiant dans la providence souveraine de Dieu, mais deuxièmement, il faut apprendre à vivre avec peu. Oh, ça fait mal pour une société matérialiste comme nous autres. Apprendre à vivre avec peu. Puis c'est le verset 11 qui suit au chapitre 4, lorsque Paul va dire, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Il dit, « Je ne suis pas super content du don parce que j'en avais besoin absolument pour être heureux. » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Au contraire, il dit, « Je ne vous écris pas parce que, en fonction que j'avais des grands besoins, pourtant, il y en avait des grands besoins, il était en prison. » Version Darby va dire, non, que je parle ayant garde à des privations. Regardez la suite du verset 11. Il dit, non pas que ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Dans le fond, il est en train de laisser sous-entendre que Paul, ça lui prenait très peu du nécessaire pour le satisfaire. C'est un ingrédient clé pour être content dans la vie. Se satisfaire de peu. Et si quelqu'un aurait pu se plaindre d'avoir de grands besoins, d'être privé de grandes choses, d'avoir très peu de nourriture, très peu de subsistance, de vivre de grands besoins liés à son incarcération, c'est bien Paul. Non, il dit même pas ça. Il dit, je ne parle pas comme étant quelqu'un qui a des privations, qui a des besoins. Wow. Alors, comment tu peux dire ça, Paul? Que tu n'as pas de besoin, que tu n'es pas privé de rien. Wow. Paul nous répondrait, parce que j'ai considéré ma vie, je peux dire que je peux être satisfait avec très, très peu. Puis on avait vu la dernière fois la définition du besoin selon Dieu. Je pense que ça vaut la peine de tourner, si vous avez la Bible avec vous, dans 1 Timothée 6, on reviendra dans Philippiens. Mais la définition du besoin selon Dieu. 1 Timothée 6 et le verset 6. Timothée 6:6. C'est encore Paul qui écrit à Timothée. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Alors, c'est quoi le besoin selon la Bible? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça, c'est les besoins selon la Bible. Mais dans un monde qui vit sans Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, bien là, c'est la culture qui définit le besoin. Alors là, c'est illimité. Ça te prend ci, ça te prend ça, ça te prend ça, ça te prend ci. Puis là, dans le fond, on avait vu l'impact de la publicité, entre autres, à la télévision, ailleurs. La publicité est là pour nous rendre mécontents, pour compliquer. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, achète ça, tu vas être heureux. Mais les besoins de la Bible, selon Dieu, c'est quoi? Nourriture, les vêtements. Je suis content de voir que tout le monde est habillé, tout le monde a sûrement mangé aujourd'hui. Donc, on est tous redurs à soir. Là. On a tout ce qu'il faut. Là. Le reste, c'est des bonus, c'est du surplus. C'est loin d'être la définition du besoin selon le monde. Dans le monde, tout devient un besoin dans le monde. Mais si on a de quoi manger, si on a de quoi être vêtu, on devrait être content. Mais c'est vraiment un combat. Là. Écoutez, on ne vit pas sa planète Mars. On a beau être sauvé, on a la chair en nous, puis c'est clair que demain matin, le matériel nous attire. Puis combien d'argent qu'on gaspille, puis combien de temps qu'on gaspille pour avoir ce matériel-là en plus. En ce début d'année, c'est peut-être une réflexion à se faire dans nos vies, nos priorités dans nos vies, comme chrétiens. Alors que sachant que pour être content, il faut que je me satisfasse de peu. Combien de soucis qu'on se crée parce qu'on est pogné avec notre matériel, nous-mêmes les chrétiens. Et c'est pour ça que Paul nous dit d'apprendre à être content. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais pour apprendre, il faut s'examiner, il faut réfléchir. Mais c'est clair, comme je le disais tantôt, qu'on vit dans une société qui respire le mécontentement. C'est toute l'approche de la publicité qui vise à nous rendre mécontents et à vouloir des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est très efficace. Il suffit que quelqu'un ait besoin de déménager ou de vendre sa maison, puis là, il se répond, comment ça, on a bien des cossins à mon Québécois. Là, c'est à moi, ça me paque. Moi, je suis plus ramasseux que mon épouse qui jette tout, là, mais un couple, il faut se compléter. Mais c'est clair qu'on ramasse et on a beaucoup plus qu'on a besoin. On est rendu au troisième secret du contentement. Une fois qu'on a vu que Paul avait non seulement confiance dans la providence de Dieu, ça c'est le premier point, c'est essentiel. Si je veux être content dans ma vie, si je fais confiance à ce Dieu souverain. Deuxième point pour être content, c'est de me satisfaire de peu, au quotidien, matériellement. Troisième secret pour être content dans ma vie, ça aussi c'est tout un défi, mais Paul le faisait lui. Paul avait réussi, c'est que Paul vivait indépendant des circonstances. Ça aussi c'était tout un job. Pourquoi je dis ça? Regardez au verset 11, quand on retourne dans Philippiens, ça va aller mieux, dans Philippiens 4:11. Paul va dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux, pour être content. Pourquoi il peut dire ça? C'est que j'ai appris, c'est le troisième point, à être content dans l'état où je me trouve, les circonstances. Quelles que soient les circonstances, je suis content, c'est ce que Paul nous dit à soir. Puis même il va préciser, un verset 2, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Alors, il est en train de nous dire que, quelles que soient les circonstances, je suis content. Paul avait appris à vivre indépendant des circonstances. C'est le troisième ingrédient du contentement. version Darby plus littérale va dire au verset 11, « Moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. » Au verset 12, version Darby, « Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance en toutes choses, à tous égards, je suis enseigné, initié, aussi bien être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien être dans l'abondance qu'à être dans les privations. » Alors, que dit Paul ce soir? C'est qu'il était content parce qu'il était indépendant des circonstances. Les circonstances ne l'affectaient pas. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pas toujours mon cas. Hein? C'est pour ça qu'il va parler de l'état dans lequel il se trouve, verset 11. C'est pour ça qu'il va parler de « dans tout et partout, en toutes choses, à tous égards », verset 12. Alors, quelle que soit la situation, Paul reste le même. Il est capable de se réjouir, quelles que soient les circonstances. Il est capable d'avoir cette vie sans inquiétude, sans angoisse, quelles que soient les circonstances, parce qu'il fait confiance à ce Dieu de paix, il a la paix de Dieu. Tout ça tient dans le chapitre 4. Et ça fait partie du contentement que d'être complètement indifférent et indépendant de toutes circonstances. Alors, moi, je vous dis, si on veut être honnête, là, c'est quoi la chose qui nous vole le plus souvent notre contentement, sinon les mauvaises circonstances? Hein? Tu te lèves le matin, soit tu vas à l'école, tu vas travailler, tu fais tes tâches X, Y, Z, tu as la retraite, les privilégiés de la retraite. Bon McDo, Maurice. Bon McDo, Maurice. Mais quelle que soit la journée, parce que vous startez votre journée, puis là, hein, tu embarques dans l'auto. Allez, ça, moi, là. Moi, je me sens que l'automobile, c'est fait hein, que vous me contrariez, c'est pas compliqué. Ça, j'ai vraiment amusé avec les contrariétés de la vie. Je dois vous avouer que ça, j'ai quelque chose à apprendre là-dessus. Là. Mais il me semble qu'une automobile, il me semble, c'est, ça fait partie de beaucoup de contrariétés dans la vie. Ça, c'est incroyable. Les bruits mécaniques, là, c'est vraiment ça me prend hors de moi. Alors, moi, personnellement, en tout cas, je suis pas mal sûr que c'est votre cas aussi, mais moi, je parle pour moi, là, j'ai beaucoup à apprendre à ne pas vivre de manière dépendante des circonstances. Comment les circonstances de la vie, parfois, m'enlèvent le contentement assez rapidement. Il faut apprendre à vivre indépendamment des circonstances. Alors, je ne suis pas en train de vous prêcher pour dire, moi, je vais l'affaire, puis il m'arrive n'importe quoi, puis j'ai aucun problème. Non, non. Je suis dans l'apprentissage. Parce que vraiment, là, s'il y a une chose que je dois apprendre dans ma propre vie chrétienne, c'est justement à gérer les contrariétés. J'ai plus tendance à paniquer quand quelque chose ne marche pas comme je voudrais. À m'emporter qu'à être indifférent et en contrôle de mes réactions. Mais ce qui me donne l'espoir ce soir, c'est que Paul, l'apôtre Paul lui-même, a dû apprendre lui aussi. C'est pas arrivé ça de même. Paul a appris à être content. Paul a appris à être indépendant des circonstances. Il a appris à faire confiance à ce Dieu souverain. Il a appris aussi à vivre avec peu. Et donc, on est encouragé par l'exemple de Paul. Un prédicateur a déjà dit ceci, « Puisque nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, selon Éphésiens 2:6, c'est ça qui nous permet d'être au-dessus des circonstances. » On est placé en Jésus-Christ lorsqu'on devient chrétien, et Jésus-Christ est assis où? Dans les lieux célestes. Et donc, ça devrait nous garder au-dessus des circonstances. Tout ce qu'on vit sur cette terre, ce n'est que passager. C'est en plus sous contrôle du Seigneur, en plus, parfaitement. Mais quand on est victime des circonstances, quand on s'effondre sous elles, c'est là qu'on perd notre contentement dans le sens de satisfaction, de paix. Et Paul nous dit, moi j'ai appris, je sais. Hein. Souvent quand on lit le verset 12, je sais vivre, je sais, j'ai appris, deux fois il va dire ça, j'ai été initié, j'ai été enseigné, je connais le secret, mais Paul, comment tu fais, Paul? C'est ça qu'on veut savoir. Mais il dit, bien, je parle au sujet des choses physiques. Il parle qu'il est content, il se satisfait. Il est indépendant des circonstances par rapport à la nourriture qu'il a, les vêtements qu'il a, les nécessités quotidiennes. Il est en train de nous dire ce soir, je sais comment m'en tirer avec des moyens humbles. Puis c'est la pauvreté qu'il avait à l'esprit. Je sais, Paul nous dit ça ce soir, ce que c'est que d'avoir très, très peu en subsistance quotidienne. Puis là, il le vivait en plus en prison. C'est très, très basique, juste les besoins de base de la vie. C'est ça que Paul avait. Je sais que c'est ce que c'est que d'avoir faim, nous dit Paul, que d'avoir des privations. Puis aussi, je sais vivre. Je sais aussi comment vivre des moments de prospérité dans ma vie. Il nous le dit aussi. Hein? Je sais vivre dans l'abondance. Quand je suis rassasié, je sais comment vivre dans ces circonstances-là aussi. Plus facile, évidemment. Puis encore là, il parle toujours au sujet des biens de la terre, des provisions terrestres. Alors, Paul nous dit ce soir, hey, je peux m'en tirer avec la pauvreté, je peux m'en tirer avec la prospérité, je peux m'en tirer, bref, en toutes circonstances. Et en toutes circonstances, nous dit Paul ce soir, j'ai appris le secret. Quel secret? Bien, j'ai appris à être rassasié. C'est intéressant, le mot « rassasié » apparaît 130 fois dans la Bible, qui a le sens de sentiment de plénitude comparable à la satiété physique après un bon repas, hein, le sens de bourré. On a tous connu ça, à un moment donné, hein, c'est le fun quand on est bourré, d'ailleurs. Plein, on y est plein. C'est le sens du mot grec « cortazo », le sens d'engraisser un animal. On ne compare pas des animaux, quand même. Mais on sait ce que ça veut dire, toute la gang, ce soir, que d'être bourré après un bon repas, puis... Tout comme on sait ce que ça veut dire que d'avoir faim. Au Québec, c'est pas long quand on a faim. On règle ça assez vite, mais on pense à bien des pays qui ont beau avoir faim. Hein. Pas beaucoup de moyens pour se rassasier. Nous, on est assez rassasiés, merci. Mais Paul a vécu des moments de grande privation. Il a eu des moments où il n'avait pas assez de nourriture à manger. Moi, je n'ai pas connu ça bien. Je pense pas beaucoup de gens au Québec ont connu ça, là, d'être plusieurs jours sans avoir rien à manger. Là. Mais il conclut le verset 12 en disant « Je sais être dans l'abondance, dans la disette ou les privations. » Le point bref, c'est qu'en toute chose, il est content, Paul, parce qu'il vient indépendant des circonstances. Alors, quoi qu'il arrive dans sa vie, nous dit Paul, c'est merveilleux. Je suis content. Paul n'est jamais une victime des circonstances. On ne voit jamais Paul en train de paniquer dans les épîtres, hein, malgré tout ce qu'il vit. Il avait une telle foi dans les promesses de Dieu. Il savait ce que Jésus avait dit. Hein? Selon Luc 6:21, sans tourner, il dit « On peut avoir faim maintenant, mais nous serons rassasiés plus tard. On peut pleurer maintenant, mais on va être dans la joie plus tard. » Et alors, Paul avait les yeux dans la bonne direction. Il regardait la gloire future continuellement. Et ça, là, si on veut être content, il faut focusser plus vers le haut que vers le bas. Bref, s'il y a une ligne à retenir ce soir, c'est que Paul n'a jamais laissé les circonstances de la vie le dévaster. Alors peut-être ce soir, moi, je ne te connais pas personnellement, je ne sais pas ce que tu vis. C'est clair qu'on vit tous des circonstances, c'est clair qu'on vit tous des situations, si on ne peut pas se tromper en disant ça. Mais peut-être que ce soir, dans ton âme intérieure, et j'espère que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ par la foi, peut-être que dans ton âme intérieure, tu es dans une situation où là, vraiment, tu te sens écrasé par les circonstances. Et Paul nous encourage ce soir, il dit, tu peux être content malgré ça. Apprends à être content, parce que Dieu contrôle ta situation, premièrement. Apprends à te contenter de peu aussi, deuxièmement. Mais aussi, vis indépendamment des circonstances, focus sur la bonne place, focus sur la gloire à venir de toute façon, focus sur les vraies choses qui comptent. Facile à prêcher, je mets d'accord, moins facile à vivre, mais c'est ça l'exhortation que le Seigneur nous donne ce soir à travers Paul. J'aimerais prendre le temps qui me reste pour regarder la vie de Paul, parce que Paul, là, vraiment, il nous dit ça ce soir, parce qu'on peut dire, ouais, c'est facile à dire, Paul, c'est... Puis là, bon, t'es en prison, t'as pas l'air trop magané, là. T'as l'air même être... du côté nourri, logé, t'as les besoins essentiels, entre guillemets. Mais on regarde la vie de Paul, là. Paul, c'est quelqu'un qui a souffert énormément au niveau physique, là. Paul est d'ailleurs la pire illustration possible de l'évangile de prospérité selon lequel que si tu viens au Seigneur Jésus, tout va bien aller. Ça va être merveilleux. Et ça, c'est le pire évangile que tu pourras entendre. Ça. Pourtant, ça se prêche quasiment pas mal plus aux États-Unis qu'ici. Mais, hein? Viens au Seigneur Jésus, là, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de la santé, tu vas avoir... quelqu'un va être déçu, ça va pas trop long. Là. Alors que le Seigneur n'a pas promis le confort, mais le réconfort. Vous aurez des tribulations dans ce monde, c'est loin d'être bien au Seigneur, ça va être merveilleux. C'est merveilleux, mais pas dans le sens que le monde le décrit. Hein. Alors, Paul serait vraiment la pire illustration de l'évangile de prospérité. Viens au Seigneur Jésus, puis tout va bien aller. Tu regardes la vie de Paul, il va lui manquer le bateau. Si tu essaies de vendre le christianisme par l'expérience de Paul, c'est sûr que tu n'auras pas beaucoup d'adeptes. On va aller voir plusieurs textes, si vous avez la Bible avec vous, on va aller voir plusieurs textes sur la vie de Paul qui est intéressante à souligner. On va aller voir que le gars, il n'a pas eu facile. Acte 14, 19, puis ça va défiler assez rapidement dans les actes. Acte 14, 19. Actes 14, 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, j'ai entendu que ça ne fait pas trop de bien, ça, là, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré se levaient et entrant dans la ville. Il se fait lapider. Ce n'est pas un sondage, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui a reçu des roches dernièrement. Là, mais... ouais, c'est quelque chose. Là. Il se fait lapider. Puis même, il s'était tellement rendu grave qu'il pensait qu'il était mort. Ça, c'est Paul, ça. Acte 16, 19. Acte 16, 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent. C'est un gars qui se fait traîner souvent pour ça. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il se fait arrêter encore. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Ça aussi ne fait pas de bien. Après qu'on les eut chargés de coups, verset 23, ils les jetèrent en prison, recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Hey, lapidé dans l'autre texte. Là, on les traîne, on les bat de verge. Ils pitchent en prison encore. Acte 17, 13, on n'est pas loin. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béré la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Donc, souvent, là, ils faisaient l'objet d'émeutes, de tumultes continuellement. Acte 18, 12. Pendant que Gallion, était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant les tribunaux. D'accord, ils se faisaient traîner encore. Acte 23. Acte 23, puis se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Encore des embûches, des obstacles, du rejet. On se fait lapider, on se fait traîner devant le tribunal, on se fait ruer de coups. Une chose après l'autre. Puis il va finalement à Jérusalem dans la séquence du livre des Actes. On ne lira pas tout ça. Dans Acte 21-27, on peut aller voir toutefois. Acte 21-27. À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Encore, il était tanné de gueule. Verset 30, toute la ville fut en émoi et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Verset 31, comme ils cherchaient à le tuer, c'est le fun, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Ils avaient commencé à le frapper. Alors le tribun s'approcha et se saisit de lui le filier de deux chaînes, puis demanda qui il était. Il frappe pas ça. T'es qui, toi? Plaisant. Pose des questions après. T'sais. Paul aboutit ensuite dans une prison de Césarée pour une période de temps prolongée, puis là, on le pitche en bon québécois à Rome pour aboutir en prison à Rome. Il a été privé de beaucoup de choses à plusieurs reprises. Paul l'a souffert de différents manques à plusieurs occasions. C'est ça, sa vie. Puis regardez, on va aller voir ce qu'il va écrire dans 2 Corinthiens 4. On a le temps. Dans 2 Corinthiens 4. Il va écrire ceci, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. À cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Sans cesse livré à la mort. C'est ça son témoignage. Il a toujours vécu au bord de la mort. 2 Corinthiens 6, 4. On n'est pas loin, on peut aller voir. 6, 4. Regardez bien l'énumération. 2 Corinthiens 6, 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Dans quoi? Dans les tribulations, les calamités, les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'était ça sa vie, Paul. Là, le jackpot, on l'a dans 2 Corinthiens 11. verset 23. Oui. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 11, 23. Là aussi, regardez, il y a une liste impressionnante. Sont-ils ministres de Christ, en parlant des faux prophètes? Je parle en termes extravagants. Il dit, je le suis plus encore. Combien? Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moyens. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé, on l'a vu tantôt. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. Dans les villes, en péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, puis à la nudité, puis sans compter les soucis que l'Église lui apportait au verset 28. Écoutez, là, quand on lit ça, là, c'est loin d'être une vie rêvée. Là. J'espère que... Hey, wow, c'est le fun de la vie chrétienne, incroyable. Là, on lit ça de même, on s'entend-tu, on va se parler de nous autres. Là. L'homme a vécu un cauchemar, pas compliqué. Là. Toute sa vie, c'est un cauchemar, là. Hey, là, toujours en train d'être frappé, toujours en train d'avoir de la misère, c'est pas compliqué. On peut-tu dire que Paul savait ce que c'était que d'être dans des circonstances difficiles? Puis nous autres, à ce soir, on est bien assis ici à Cap-de-la-Madeleine. Ah, on a nos circonstances difficiles dans nos vies. On a nos épreuves, on a nos déceptions, on a nos stress. Je pense pas qu'on peut se comparer à Paul à ce soir dans les misères. Si tu as autant de misère que ça, viens me compter ça, on va écrire un livre, ça va être merveilleux. Hey, Paul, là, quand on dit ça, là. Hey. Puis là, on se rappelle ce qu'il nous dit dans Philippiens 4. J'ai appris à être content. Hey. Tout un modèle. Dans l'état où je me trouve. Il est content parce qu'il fait confiance à son Dieu. Il est content parce qu'il se contente de peu au quotidien, puis il est content parce qu'il a appris à se détacher des circonstances pour être heureux. Ce n'est pas les circonstances qui le rendent heureux ou malheureux. Il dit, non, moi je suis heureux, je connais le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul, je pense que c'est dans Philippiens, ça vaudrait la peine de faire un message là-dessus prochainement, mais bon, on connaît le texte dans Philippiens 3 sans tourner, mais tu sais, quand Paul nous décrit sa conversion, il dit, moi, quand j'ai trouvé le Seigneur Jésus-Christ, là, tout ce qui était précieux dans ma vie, là, hein, pharisien, circoncis, tribu de Benjamin, écoute, là, moi, j'avais le jackpot là, pour... je l'avais l'affaire, là, tu sais. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, tout ce qui avait de la valeur pour moi dans la colonne des gains, j'ai tout pitché ça dans la colonne des pertes, là, parce que j'ai gagné Christ. Puis parce qu'il a gagné Christ, là, les circonstances. So what? J'ai le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as-tu, le Seigneur Jésus-Christ, dans ta vie à ce soir? Je ne connais pas tous. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous avez grandi une religion dans laquelle vous avez entendu parler de Jésus-Christ, mais vous n'avez jamais fait une rencontre personnelle avec lui à la croix du calvaire en disant hey, « Je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. » Puis la seule solution, le seul chemin... C'est Jésus-Christ. Alors, peut-être ce soir, tu ne le connais pas encore personnellement, puis tu essaies de vivre ta vie dans cette vie de fou. Là. On regarde ce qui se passe aux États-Unis, fusillade, puis vraiment une vie de malade. Là, tu sais. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui peut vivre sur cette terre sans Jésus-Christ, mais c'est une vie de fou. Là. Aucune espérance, c'est le désastre. Mais quelle bénédiction que de le connaître personnellement. Mais c'est ce Jésus-Christ-là que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. C'est ce Jésus-Christ-là qui fait en sorte qu'il peut dire, je ne me soucie de rien, je m'inquiète de rien, je me réjouis toujours, je suis content. Puis là, on n'est pas en train de dire que Paul, c'est un masochiste, puis il aime ça se faire frapper, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là. Paul, c'est un humain, puis quand ça fait mal, mais il dit, moi, là, je suis content dans l'état où je me trouve. Alors, comment, nous, on peut vivre au-dessus des circonstances? Mais c'est Paul qui va nous donner la recette dans un autre épître. On va tourner dans une autre épître, Colossiens 3, et on achève. Colossiens 3, 2. Paul va dire ceci dans Colossiens 3, 2. C'est quoi la clé pour se détacher des circonstances, vivre au-dessus des circonstances, c'est qu'il va dire, attachez-vous, dans Colossiens 3:2, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Mais ça, c'est au verset 1, si vous êtes ressuscité avec Christ, si tu es croyant, condition essentielle. Parce que sans Jésus-Christ, c'est impossible d'être vraiment satisfait sur cette terre. Sans Jésus-Christ, c'est impossible d'être pleinement content. C'est un privilège qui appartient seulement aux enfants de Dieu. Ça. Une capacité qui appartient seulement aux enfants de Dieu. Alors, on doit avoir une vision céleste, une perspective éternelle. On doit regarder à notre récompense éternelle. Puis un dernier texte, Romains 8, 18, qu'on connaît quasiment par cœur. On va aller le voir. Romains 8, 18. Et ça, là, c'est quelque chose. Sachant et ayant lu toutes les souffrances que Paul a vécues dans sa vie, puis de lire Romains 8, 18, ça prend tout un sens. Paul est capable de dire aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent, puis la liste, on l'a lu tantôt, ne sauraient être comparées. C'est rien, en bon québécois, comparé à la gloire qui m'attend. » Et ça, on devrait se rappeler ça ce soir. Quelles que soient les situations difficiles de nos vies, des déceptions, des choses qu'on prie, puis on n'a pas encore la réponse, des problèmes physiques, des problèmes financiers, des problèmes de toutes sortes. On doit se rappeler que ce qu'on vit actuellement, là, puis ça va être assez extraordinaire, on ne peut pas le... Mais quand on va être avec le Seigneur, je suis sûr qu'on va dire, c'était bien Jésus qui m'a croisé la tête sur la terre. Hey, parce que là, on va être devant lui, là. Dans notre corps glorifié. Puis c'est vrai que là, on va vivre et on va réaliser que Paul avait raison, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend. Puis c'est extraordinaire, ça. Alors, si on veut apprendre à être content et à apprendre à être indépendant des circonstances, il faut vraiment focusser sur le céleste. Et Paul vivait à la lumière de la gloire à venir et non à la lumière de la douleur ici-bas. Et en passant, si on veut focusser sur le céleste, il faut se pluguer sur sa parole. Et quelle autre belle résolution en 2011, de dire, écoute, peut-être que je l'ai négligé en 2010, mais là, il faut que je m'enligne pour lire la parole au quotidien. Puis même si à un moment donné, une journée, je ne lis pas, mais je ne me décourage pas. Non, demain, je vais aller. Mais vraiment se connecter à sa parole de Dieu, se connecter à l'église locale aussi pour s'édifier les uns les autres. Par la prière aussi. Et c'est comme ça qu'on va rester focusé à bonne place. Parce que, remarquez bien là, que lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, qu'on néglige sa parole, qu'on néglige la prière, puis au bout de l'année, on vient négliger les réunions d'assemblée aussi, là, la chair reprend le dessus, puis là, on fait moins confiance à la providence de Dieu. Puis on essaye de contrôler notre vie. Là, on est moins satisfait avec ce qu'on a, puis on commence à être envieux sur ce que les autres ont, puis la chialer sur ce qu'on n'a pas. Puis là, les circonstances commencent à nous influencer dans notre vie quotidienne. C'est sûr que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est la chair qui reprend dessus. Puis avant de connaître le Seigneur, c'était ça. On n'avait pas un Dieu en qui faire confiance. On se contentait vraiment pas de peu. Puis les circonstances nous écrasaient. Alors, c'est clair que si on ne veut pas retomber là, il faut se connecter. D'ailleurs, Paul avait cette confiance dans la providence de Dieu, premier ingrédient, satisfait avec peu, deuxième ingrédient. Refusait de tomber dans les valeurs de la culture par rapport aux besoins. Troisième ingrédient au contentement était indépendant des circonstances parce que ses affections étaient fixées à un autre royaume. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le quatrième ingrédient, là, si on ne l'a pas, les trois autres tombent quasiment. C'est assez important de savoir c'est quoi. Puis là, je suis en train de forcer une réinvitation à la Cap de Madeleine pour savoir ça, mais je vous dis ça. C'est que le quatrième ingrédient au contentement, si on ne l'a pas, on n'a pas les trois autres. Si on n'a pas le quatrième ingrédient, ce ne serait pas possible d'avoir cette confiance en Dieu, ce contentement de peu, puis aussi de cette indépendance des circonstances. Il y a un quatrième ingrédient essentiel que Paul révèle dans son épître aux Philippiens. Puis dans un autre tantôt, si Dieu veut, on viendra exposer ce quatrième ingrédient essentiel pour... Sinon, les trois autres tombent comme un jour de cartes. Alors, on va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour le temps qu'on a eu dans ta parole ce soir. Et Seigneur, combien j'ai à apprendre à être content dans ma vie. Puis sûrement que bien des gens ce soir, des, Les croyants peuvent dire la même chose. Et on te demande pardon pour nos murmures dans nos vies, nos mécontentements, alors qu'on a tout en toi. Mais Seigneur, on a cette tentation du monde, cette pression de la chair, cette pression du monde qui veut nous enlever les yeux sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, veut nous détourner, veut nous distraire. Puis là, Seigneur, on perd de vue ta souveraineté, on perd de vue le fait qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre sur cette terre matériellement, autant qu'on a de la nourriture et du vêtement et logement. Et Seigneur Dieu, apprends-nous à être indépendants des circonstances. Puis je veux te prier pour ceux et celles qui vivent ce soir des circonstances difficiles. Mais Père, à la lumière de ce qu'on a lu de Paul, Père, c'est sûrement pas mal moins pire. Mais Père, on ne veut pas minimiser ce qu'on vit chacun d'entre nous. On a tous nos peines, nos douleurs, nos déceptions. Mais Père, fais qu'on puisse te dire, écoute, prends ça entre tes mains. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Puis qu'on puisse se décharger sur toi de tous nos soucis. Puis ça aussi, c'est un apprentissage quotidien. C'est sûr, marcher par la foi. Et si jamais quelqu'un ne te connaît pas ce soir, Seigneur, c'est quelqu'un sûrement qui essaie de vivre cette vie en étant satisfait, mais c'est impossible sans toi. Et sûrement que cette personne-là essaie de se satisfaire de différentes façons, mais au bout du compte, il y a un vide dans son cœur. Et fait que cette personne ce soir, ou ces personnes puissent réaliser qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur, et qu'ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, mort à la croix du calvaire, ressuscité, après avoir versé le sang pour le pardon des péchés, qu'ils puissent mettre et placer leur confiance en Jésus-Christ et se repentir de leurs péchés, qu'ils te donnent leur vie, Seigneur. Et ils seront alors sauvés, capables de vivre une vie contente. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.
Amen.